Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Stelly, c'est le genre de personne inspirante que j'adore rencontrer. Elle est éducatrice de jeunes enfants, mais aussi éducatrice spécialisée. Elle nous confie rencontrer des marraines bonnes fées qui l'amènent sur des sentiers qu'elle n'aurait pas imaginés, mais elle se laisse guider et découvre des univers bien opposés. De la petite enfance à la grande exclusion, elle œuvre en France, en Suisse et depuis 5 ans au Canada. Dans cet épisode, elle nous partage ses réflexions, son cheminement et des façons de faire et de fonctionner bien différentes. Merci à elle pour son témoignage, merci à Annaëlle de l'épisode numéro 1 pour sa recommandation et belle écoute à vous. Bonjour Stelly.
Bonjour.
Et bienvenue sur La Voix des Invisibles. Merci de m'accorder de ton précieux temps pendant ton périple français. Je vais te laisser te présenter, nous dire de quelle formation tu es et depuis quand tu es dans le social.
Oh. Donc, de formation éduque jeunes enfants, à la base, on va dire, puis éduque spé. Depuis quand? Alors, de mémoire, non, éduque jeunes enfants, diplômée en 2009. Et EduxP 2012, ou c'est l'inverse, non, 2007, attends, je sais même plus, ça doit être, enfin ça s'est fait à 2 ans d'écart, d'abord Educ Jeunes Enfants, formation à l'IRTES, hein, ouais. Pour avoir vraiment un aperçu, enfin même plus qu'un aperçu, enfin vraiment une connaissance, des compétences sur la petite enfance, le développement du jeune enfant, c'était vraiment ça que je voulais faire.
Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir en savoir plus sur l'enfant, car c'est très précis, EJE?
Je sais pas, c'était là. C'était à la base, au tout début, après le bac, je voulais faire psychologue pour enfants. Donc je suis allée en fac de psycho, mais c'était pas pour moi, la fac. Donc j'ai bien profité de ces 3 années. Mais non, c'était pas pour moi. J'allais aux cours qui m'intéressaient, on va dire, même si c'était des cours un peu plus sur la maîtrise ou d'autres, et vraiment en lien avec le développement du jeune enfant. Donc ça s'est fait un peu tout naturellement, quoi, de me dire je vais aller en éduque jeunes enfants parce que psycho finalement ça me convient pas. Je voulais quelque chose qui était plus sur le terrain et je voulais pas forcément non plus être en garderie ou petite enfance. Je sais plus, CPE, ça s'appelle pas comme ça, mais crèche. Et en fait, c'est ça. Donc, j'ai passé le concours, j'y suis allée, et très rapidement, j'ai fait mon dernier stage en pédopsychiatrie. Parce que je voulais quand même qu'il y ait une dimension plus d'accompagnement spécialisé. C'était déjà là, je pense. Et après, ça s'est fait tout seul, quoi. Le diplôme en poche, sur des rencontres, opportunités. J'ai travaillé quelques mois en petite enfance, mais le rythme de la petite enfance et de la garderie, où tout est très, très, très ritualisé, il y a une routine et c'est super important pour les enfants de l'avoir. Mais moi, c'était oppressant d'avoir cette routine. Donc, j'ai trouvé un autre emploi. Je me rappelle, j'avais pas trop de pistes d'emploi. Je m'apprêtais à faire les vendanges. Et en fait, il y a eu une offre pour être directrice d'une halte garderie. J'avais pas du tout les... Enfin, je veux dire, j'avais 1 an d'expérience en tant que JE. Et j'ai été prise à ce poste. En septembre, sur un remplacement. Donc, je me suis dit, OK, je me lance. La boule au ventre, parce que... OK, donc là, faut gérer l'équipe. J'ai jamais fait ça. Et puis ça s'est fait parce que je pense que peut-être dans ce métier-là on a une capacité d'adaptation, donc ça s'est fait. Et puis surtout c'est que j'ai remarqué que dans tous mes emplois il y a toujours eu une bonne fée, une marraine, tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas une personne bienveillante qui a toujours été à accompagner. Et c'est ce qui s'est passé dans cette garderie. Il y avait une j'ai plus les mots, une aide
ouais, une auxiliaire.
Ouais, une auxiliaire de puère, merci. Okay. ASE, j'avais en tête, mais non, une auxiliaire de puère qui m'a aidée à prendre mes marques, à gérer la garderie, et puis voilà, à comprendre comment tout ça fonctionnait, le lien avec les parents. C'était super formateur. Puis en fait, à la fin de cette année, je me suis dit, OK, j'ai pas envie de retourner bosser en garderie, je vais retourner en EDUXP.
Qu'est-ce qui t'a fait retourner en formation? Est-ce que tu y pensais déjà avant?
Il y avait quand même une envie d'être plus dans un milieu spécialisé, toujours en petite enfance. Genre avec l'idée de « je vais bosser avec des enfants TSA, puis je vais vraiment pouvoir les accompagner, et puis je mets des tas de choses en place. Et puis voilà, genre je vais m'éclater là-dedans, et ça va être ça qui va se passer. » Et je pense que c'était trop tôt. Peut-être que je suis arrivée trop tôt sur le marché du travail. Enfin, en tout cas, j'avais peut-être pas assez d'expérience, pas assez de maturité. Donc, je suis repartie en formation d'EDUXP sur 2 ans. Parce que à ce moment-là, il y avait la passerelle. Mais c'est ça, donc il y avait la passerelle. Et donc là, j'avais peu de cours, mais j'avais surtout des stages à faire. Donc pareil, je suis restée quand même en enfance, adolescence, en étant avec des ados porteurs de handicap. Et puis, je suis allée faire mon stage de dernière année dans une structure auprès d'enfants TSA, en me disant « jackpot, c'est bon, c'est ce que je veux faire ». Et en fait, en arrivant dans la structure, non, pas du tout, je ne me suis pas sentie à l'aise. Est-ce que c'était le fonctionnement de la structure? Est-ce que c'était moi? Le fait de redevenir vraiment stagiaire, très peu de responsabilités, pas beaucoup de possibilités de donner son avis. Enfin, c'était assez clivé. Peut-être que c'était aussi le fait que c'était la structure qui était. Enfin, je sais pas, mais je me suis vraiment pas sentie à l'aise. Et là, moi, je me disais, voilà, c'est foutu, quoi. Pourquoi j'ai refait EDUXP? C'est n'importe quoi. J'aurais mieux fait de faire autre chose. Et je suis allée voir ma formatrice de stage. Pareil, marraine bienveillante de la formation. Et qui m'a dit, arrête avec les enfants et va avec les adultes. Et j'ai dit, mais je sais pas faire. Je suis éduque jeunes enfants. Je ne travaille qu'avec des petits.
Mais là, à ce moment-là, ça vient un peu contrecarrer tes,
complètement.
Tes plans.
Non, ça marche pas. C'est pas du tout. C'est pas du tout ce que j'avais en tête. Moi, c'était genre petite enfance, enfance, quoi. Mm. Pas du tout des adultes. Puis pas de lieu de stage. On va me mettre où, quoi. Enfin, je sais pas du tout où je vais aller. Et il y a une place en stage qui reste. Où elle me dit, bon, c'est avec des adultes alcoolodépendants, abstinents. Et là, mais c'est à des kilomètres de...
Mais il y a un an, je gérais une halte garderie. Ouais. Je ne suis pas exactement dans le même mouvement. Ouais.
Pas du tout.
Mais comment tu le ressens là, à ce moment-là, quand elle te pose ça?
Je ne sais pas. Je me dis, bon, OK, il faut bien que j'ai mon diplôme et... Et puis, allons-y, je vais bien voir comment ça se passe. Je lui fais confiance. Mm-hmm. Elle me voit. Elle me dit, mais si, je suis sûre que ça fonctionnera. Tu sais, les personnes qui voient en toi, j'ai envie de te dire un peu comme quand on est éduque, travailleurs sociaux. Mm. Quand on voit, tu sais, chez les personnes que t'accompagnes, les résidents, puis tu te dis, mais moi, je sais que vous êtes capable, je le vois que vous êtes capable de faire ça. Elle, pareil, tu sais, à dire, non, mais tu verras, je suis sûre que ça va bien se passer. Puis c'est une équipe bienveillante et oui, lance-toi. Donc j'y suis allée. Au bout de 2 mois, il fallait bien que j'aie un stage. Et l'entretien était assez déroutant dans le sens où j'ai rencontré le chef de service qui donc m'a dit, effectivement, on a peut-être une place... pour une stagiaire, mais t'arrives après, t'es pas dans les clous, c'était il y a 2 mois, puis pourquoi tu te retrouves ici? Donc j'explique, quoi, enfin, je suis honnête, j'explique que ça n'a pas fonctionné où j'étais, que je effectivement, je ne connais rien à la problématique alcool. Là, il me demande quelle est ma consommation d'alcool.
C'est vrai. T'as eu cette question ?
J'ai eu cette question. C'est dingue. Question qu'on a nous-mêmes posée après, aux personnes qu'on accueillait. Et je me revois dire ouais de temps en temps les fins de semaine. Enfin bref, c'était assez drôle parce qu'en fait c'est une question que tu poses forcément. C'est pas la première question que tu poses quand tu fais de l'accompagnement là, mais elle arrive. Et après donc il me dit on va demander s'il y a une des éducatrices. Enfin il y avait je sais plus quatre éducateurs éducatrices. Bref, il en appelle une pour demander si elle est OK pour me prendre en stage et elle me dit non devant moi.
Non merci.
Elle me dit non, moi c'est de la responsabilité, c'est trop de boulot. Il s'explique un peu les deux chefs de service et l'éducatrice. Puis elle dit OK, mais en fait ça fonctionnait par binôme les groupes. Et elle dit OK, mais on fait ça en binôme avec ma collègue éduc. Donc on rappelle l'éduc. Donc là je suis sur ma chaise dans le bureau du chef de service.
Et j'attends. J'attends que quelqu'un se dise.
Voilà, puis je suis présente quoi. Je veux dire, on m'a pas fait sortir.
C'est ça. Tu n'as pas attendu dans le couloir.
Très, très à l'aise.
Ah, c'est clair.
Et je pense que je joue un peu de l'humour, quoi, en disant, mais je suis plutôt sympa.
Je prends pas trop de place.
Ouais, je me ferai discrète, vous inquiétez pas, je ferai le café s'il faut. Et en fait, donc elles ont été OK pour me suivre à deux. Et ça a été super enrichissant.
Ouais.
Et ça, je pense que ça m'a fait basculer vraiment dans l'accompagnement de personnes adultes. Et tout le long de ce stage, parce que donc une des deux éducatrices avait beaucoup plus d'expérience, et en thérapie familiale, et en systémie, et en plein de domaines que j'ai découvert en même temps que j'étais en stage, elles avaient chacune leur façon d'aborder les personnes accueillies. Donc c'était super enrichissant comment elle menait les groupes de parole, les activités, le quotidien. J'ai vraiment découvert le milieu de l'internat aussi. Et puis j'ai vraiment aimé.
Toi t'as pu du coup prendre un peu des bouts de l'une et l'autre et
ouais.
Construire un peu, ouais.
Complètement.
Ok.
Et puis j'ai compris aussi que toute la formation que j'avais eu en éduque jeunes enfants, elle m'était carrément utile. Mm-hmm. Dans l'accompagnement des personnes adultes, dans leur passif. Enfin, je veux dire, t'arrives pas à la dépendance alcool, ça s'immisce, ouais, quoi. T'arrives pas comme sûr. Ça. Puis on le sait que c'est dû à. Enfin voilà, il y a tout un pattern familial. Il y a quand même tout un passif de son enfance, et de sa petite enfance. Et en fait, ça aide. Et puis les personnes qu'on accompagne, elles sont parents. Comment t'expliques ça à tes enfants? Comment tu fais? C'est quand même la maladie des pertes, donc ça m'a vraiment servi et j'ai travaillé après un petit peu en remplacement dans cette structure.
L'été, ouais, j'ai mis, enfin,
ouais, c'est ça,
voilà,
c'est
ça. Remplacement de congé, ok.
Ouais.
Et ton stage 2, alors comment?
Ah bon, en fait, j'en avais qu'un de ton stage.
Ah, t'avais qu'un du coup.
Mais oui, parce que j'étais en passerelle.
Ah, donc ouais, ok. Donc t'as fait un. Okay.
Ah, j'étais en mode. Études sur 2 ans où j'avais vraiment, je pense je devais avoir genre 6 heures de cours par mois.
Ah ouais.
Et okay. Un stage court de mémoire et donc le stage long.
Ok.
Ah non, c'était.
Ok.
Ah ouais.
Ouais, de toute façon, t'avais déjà un diplôme, donc en soi.
C'est ça, en fait, c'était la passerelle.
Un socle.
Puis je crois que c'est arrivé juste avant, je sais pas, le dernier diplôme EDUXP. Après, il y a eu une réforme. Moi, je l'ai.
Ok.
Enfin, je suis passée sur les deux réformes.
Ok.
Ouais, 2005, décembre. Parce que moi, j'ai fait la formation éduque jeunes enfants en 2 ans et demi.
Ok. Effectivement, maintenant, c'est 3 ans. Comment tu fais pour choisir où tu vas travailler une fois diplômée
après.
ES? Ouais, après.
Eh ben, pareil. Des rencontres.
Ouais.
Des personnes. Toujours ces espèces de marraines bienveillantes. non, mais c'est fou. J'avais pas eu conscience de ça avant. Mais je postule un peu partout, je regarde un peu ce qu'il existe. Et il y a un poste qui se libère dans un hébergement d'urgence à Dijon.
Ok.
Dans lequel je m'étais dit, jamais j'irai travailler là, je ne peux pas travailler.
T'avais eu un peu un aperçu, parce
oui.
que dans ton stage, effectivement, c'est des lieux qui peuvent se rejoindre à un moment donné.
Où on peut accueillir les personnes. qui sont sur une démarche de soins et qui quittent l'itinérance et qui voilà, font une démarche de soins et peuvent arriver après dans là où je travaillais, dans la structure où je travaillais avant. Et je trouvais ça dur comme structure de loin. Je me disais non, mais là, c'est dur. Là, on est vraiment sur des gens à la rue qui... Puis comment ça se passe? Il y a tellement plus d'addictions, il doit y avoir des difficultés de comportement, de violence, de... Jamais j'irai travailler là.
Et ne jamais dire jamais.
Ne jamais dire jamais, ça c'est sûr. Parce que j'y suis restée, enfin dans la structure, j'y suis restée 6 ans.
Ok.
Finalement, et c'est ça, donc je suis partie la première année donc travailler avec les personnes seules.
Ok.
Dans un bâtiment... en piteux état pour accueillir tous ces gens j'allais dire peu de femmes à l'époque, je sais pas du tout où ça en est maintenant, mais beaucoup d'hommes seuls, un peu maganés, enfin vraiment des grosses difficultés et pareil, ça a été super formateur. Ça a été épuisant, j'ai eu peur au début. Ma première soirée reste épique. Je me rappelle, je suis rentrée un 14 mai.
Il y a des dates qui marquent un peu. Hein.
C'était un lundi, oui, un 14 mai. Et je ne savais pas trop, j'avais mes horaires le matin, j'arrivais pour une réunion d'équipe. Donc là, déjà, je découvrais, toute l'équipe, quoi. Et après, je faisais la soirée, donc à 14h-21h, je crois, en binôme avec un collègue, enfin... Et donc tout le quotidien de cette journée, beaucoup d'infos à prendre, un lieu complètement différent de là où j'étais. Il faisait froid parce qu'il y avait toujours cette porte de bureau ouverte pour qu'on puisse entendre ce qui se passait sur la cour. Et donc elle était pas fermée.
Oui.
En fait, il faisait, pourtant c'était au mois de mai, mais voilà, il faisait froid. Et ouais, la soirée, les gens rentrent pour dîner, enfin pour souper, enfin le soir. et là, on a un gars, grosse alcoolisation, vraiment très très forte alcoolisation, un russe, une baraque immense, qui arrive dans le bureau. Et là, on est juste sur la passation, le veilleur de nuit va arriver, les collègues font les transmissions, et c'est ma première soirée là. Donc je vois ce qui se passe, j'ai aucune intervention à faire moi pour le moment de toute façon. Puis bien heureusement, parce que je sais vraiment pas comment j'aurais fait. Et ce gars arrive complètement éméché, enfin c'est plus qu'éméché, enfin fortement alcoolisé. Et il parle en russe, je sais pas ce qu'il raconte. En tout cas, il est vraiment pas content contre les éduques. Et là, il se met à faire des pompes dans le bureau, au sol. Vraiment, moi je comprends pas.
Le baptême de la première soirée.
C'est un peu ça. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais pourquoi je suis là?
Mais où je suis tombée?
Il y a plein de trucs dans ma tête. Je repars, enfin, l'éducateur qui est là arrive à gérer le gars, va limite le coucher dans sa chambre et le borde. Donc là, je me dis, ok, je n'ai pas les compétences. Est-ce que vraiment, il faut passer d'un extrême à l'autre à ce moment-là?
Aborder des enfants et après border des adultes.
Ouais. Peut-être qu'un adulte alcoolisé vaut un enfant.
Très certainement.
Je ne sais pas, mais des fois, je me pose la question. Quand je travaille, je me dis... Oh. Et je suis partie, je ne sais plus, il était 23h. En rentrant... En plus, on m'avait dit, sors pas directement par ce portail-là parce qu'on a encore des gens devant... passe par l'autre porte, enfin bref, je suis rentrée, je me disais ok, non mais c'est faut vraiment que je réfléchisse à savoir si j'y retourne. Je suis rentrée chez moi, j'étais épuisée, j'avais pris froid, je retravaillais pas avant 2 jours, et pendant 2 jours je me disais je n'y retourne pas, je ne fais pas ça.
C'est déjà très parfois déstabilisant de prendre un nouveau job parce que ça déconstruit un peu dans le petit confort ou inconfort, mais un système que tu connaissais, en tout cas, ça vient un peu déjà tout déconstruire tout ça. Mais alors toi, t'es passé d'un extrême à l'autre.
Ouais, puis ok, on est capable d'adaptation rapide, mais ce soir-là, non, franchement, quand je suis rentrée chez moi, je me disais pas super, j'ai adoré ma première journée de travail, j'ai hâte d'y retourner.
Ça a l'air trop bien.
Ouais, c'est ça. Ouh, youpi. Et en fait, j'y suis retournée, hein,
mais
2 jours après. Et pareil, des collègues bienveillants, très professionnels, qui connaissaient très bien les résidents, qui savaient comment les aborder, comment les accompagner. J'aurais aimé que ses collègues lavent plus souvent leur tasse à café, je ne te cache pas. C'était un petit peu mon défi permanent.
À ceux qui écouteront l'épisode
voilà,
de
Stélie. Voilà, les gars, hein, je n'oublie pas.
Les tasses à café dans l'évier.
Et le courrier, voilà, le courrier à trier. Mais non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu des collègues qui étaient vraiment bons, quoi. Puis qui connaissaient leur job, quoi. Puis à tester des accompagnements. Tu sais, pas le truc tout figé, là, où tu te dis, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, avec cette personne.
Il n'y a rien de figé, là-bas.
Non, c'est, tu t'adaptes, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tu peux te pogner, tu peux un peu te fâcher, tu renvoies forcément. Moi, il y a plein de fois où je me suis dit, OK, en fait, là, je renvoie sa mère, je lui renvoie sa sœur, je lui renvoie sa fille. Tu essayes sans cesse, tu communiques beaucoup avec tes collègues. C'est très prenant comme boulot. Cette année-là, moi, elle a été vraiment fatigante. C'était vraiment... C'était dense parce que tu vois tes collègues toute la journée. Tu es quand même avec des gens qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de personnes, qui des fois en ont besoin mais n'en veulent pas. Tu es obligé de... Tu passes de remettre en route une carte d'identité, à préparer une sortie d'hospitalisation, donc il y a une personne qui va arriver, à passer par une évaluation, à travailler avec la personne, quel est son projet, où est-ce qu'elle veut aller, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle est en capacité de faire, qu'est-ce qu'elle croit qu'elle peut faire. Enfin, tu fais tout dans la même journée, à installer des gens qui arrivent, tu vas faire les lits. Enfin, c'était riche et épuisant.
Oui.
Et c'est ça, ça a été un an. Et après, j'ai continué dans la même boîte, dans la même asso, auprès des familles.
Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les nuances, en tout cas, sur les familles ? Quel était plutôt ton public ?
Alors là, on était trois ou quatre. Alors, je travaillais qu'avec des assistantes de services sociaux. J'étais la seule d'XP. Donc, il me manquait l'expérience AS à mon arc. Je peux pas dire qu'on avait chacune des spécificités dans l'accompagnement. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu au fur et à mesure des années, j'allais dire. J'avais une espèce d'appétence quand même à accompagner les familles réfugiées ou demandeuses d'asile. Donc c'est vrai que j'accompagnais, mais on avait vraiment beaucoup de personnes. Vraiment beaucoup de familles, avec beaucoup de lieux d'hébergement, que ce soit de l'hôtel en urgence, que ce soit parfois de l'hôtel à plus long terme, des espaces un petit peu partout dans la ville pour héberger les gens. Et pas de spécificité particulière, j'allais dire. J'étais pas très à l'aise avec les expulsions locatives.
Oui, c'est pas évident.
Ouais, je n'étais pas très à l'aise. Mais après, non, accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. Familles ayant obtenu statut de réfugié ou arrivant en demande d'asile. Ou des jeunes couples avec enfants. Ou des femmes seules fragiles. Là, il y a eu vraiment énormément de rencontres. Et alors là, c'était... Je crois que c'est vraiment la job que j'ai la plus aimée. Vraiment le plus appréciée. Pareil, c'était fatigant, c'était épuisant. J'étais pas armée comme il fallait pour pouvoir gérer aussi toute la pression, toute la colère que je pouvais avoir aussi contre les systèmes de listes d'attente, de manque de moyens. Ça c'était difficile de se dire, mais
c'est maintenant qu'elle en a besoin.
Ouais. Et puis pas de moyens. J'ai un peu moins de mal à gérer, mais j'étais assez virulente sur ça. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais voulu que tout le monde puisse être accueilli correctement, puis que ça aille vite pour les gens, puis qu'on puisse trouver des solutions rapidement, mais c'est pas le cas. Hein. Après, ouais. ça nous dépasse. Hein. Ça, c'est du domaine des politiques, des politiques sociales, mais c'était vraiment riche.
Ouais, c'est une bonne expérience.
Ah ouais, j'ai vraiment appris. Mais de toute façon, c'est 6 années dans cette structure, que ce soit avec les personnes seules ou les familles, Je pense que je n'aurais pas les compétences professionnelles et mon positionnement professionnel sans être passée par cette structure.
Oui, pour toi, c'est un socle très, très formateur.
Ah ouais, ouais. Bah, tu vois okay. tout. Tu c'est vois ça. Tout, puis tu es dans l'urgence. Ouais. Enfin, je veux dire, tu as beau avoir des rendez-vous de prévus, des choses de prévues, des réunions, des séances d'évaluation où tu parles avec d'autres directeurs, directrices de structure, tu défends les personnes et le projet qu'elles ont, tu veux y aller et tu accueilles tout type de problématiques. Et c'est.
Oui, c'est ça.
Je m'en rends compte maintenant. Pareil. Des personnes bienveillantes dans l'équipe qui te soutiennent, qui comprennent quand tu perds espoir, quand tu dis mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, et puis en fait si, puis c'est l'eau, je pense, la remise en question aussi de toujours se questionner, de toujours pas rester sur des acquis. Où moi j'avais peur de ça. C'est pour ça que j'ai pris rapidement des stagiaires, moi.
Pour te sortir la tête du guidon.
Ouais. Mm. J'avais peur.
C'est souvent ce qu'on fait, hein, pour se dire au moins elles vont me questionner. Du coup, ça va questionner ma pratique. Pourquoi je fais ça et le sens de ça.
Ouais.
Pas qu'on reste sur quelque chose de trop figé.
Puis j'étais jeune professionnelle. Enfin, je veux dire, j'avais pas non plus. J'avais quoi, 3-4 ans d'expérience. Enfin, c'est vraiment peu. Et j'avais peur déjà de me dire « Oh là là, si j'accueille une famille et puis que je me dis « Ok, ça va être le point A, le point B, ensuite ça sera ça et puis on va terminer comme ça », j'avais vraiment peur de ça.
Oui, ça peut être long. Pour toi, ça fait plusieurs fois que tu en parles de tes rencontres, mais là, plus précisément les équipes, c'était quelque chose de très important pour toi d'être...
Ah oui.
Bien dans ton équipe, ça aurait pu être un élément qui te fasse partir d'une institution si l'équipe elle se montrait malveillante ou un peu en compétition ou pas très accueillante.
Ouais,
ouais, ça aurait pu.
Je sais pas si je serais allée jusque là, mais tu sais, tu passes 8 heures
voire plus quand t'es en internat. Ouais.
Exact. De ton temps avec tes collègues, alors et tu accueilles. Enfin, c'est pas le monde des bisounours, quoi. T'accueilles des gens qui vont pas bien, quoi.
T'as besoin de pouvoir trouver du monde pour débriefer, pour te plaindre aussi,
oui.
Un peu.
Oui.
Te plaindre.
Mais non, mais juste dire, là, j'en peux plus, là, il se pisse, ou il s'est réalcoolisé, ou elle est retournée au domicile, et je sais pas quoi faire.
Je sais plus, là.
Et je... Ouais.
Élaborer ensemble, ça permet aussi de te dire, ah tiens, ouais.
Et puis, d'apprendre des plus anciens et anciennes. Parce que forcément, ils sont passés par les mêmes questionnements.
Oui, évidemment.
Alors, à leur façon, j'imagine. De pouvoir être authentique dans une équipe. Ça, c'est pas simple. De savoir s'écouter. Parce que forcément, ça te renvoie aussi à tes fonctionnements, à tes comportements ou à des situations que tu as pu vivre ou que des gens de ton entourage ont pu vivre. Enfin, on le sait. Enfin, je veux dire, ce métier, tu te retrouves avec des fois... tu t'y attends pas, là. Et ça, paf, un petit taquet derrière les oreilles, là. Tac. Ah, j'avais oublié que peut-être je comprenais ce que la dame ou ce que
elle
le monsieur
est en train de vivre.
Est en train de vivre ou il passe par tel truc. Mais et hyper important les équipes professionnelles j'ai eu des bonnes équipes. Donc jusque là, je touche du bois, mais ça fonctionne. Puis t'es obligé, je pense.
T'es obligé d'être soudé, d'être solidaire et soudé, sinon ça.
Et puis savoir que tu peux passer le relais.
Ouais.
Savoir que tu peux passer le relais,
hein, ouais.
De dire non. Là, je...
Je peux pas.
Ouais, là, je vais faire plus de mal que de bien. Je vais pas y arriver. Je suis pas en capacité. Je suis pas capable. Mais ça, c'est pareil. Hein. C'est pas évident. Moi, j'ai pas réussi tout de suite à me dire... Tu t'es dans une situation, puis t'es investi, et puis... Tu veux que la personne ou la famille, ou enfin, j'en sais pas, ceux que t'accompagnes, ils avancent, puis qu'il y ait une sortie. Et des fois, t'es obligé de passer le relais parce que, en fait, tu t'es fatigué de le faire.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et ça, c'est hyper professionnel. Je trouve que de savoir le faire, et c'est important.
Dire stop. Ou même, viens, on y va à deux.
Ouais.
Parce que la dernière fois, je ne l'ai pas trop senti. Ouais. J'ai besoin de ton avis. Mmh. Puis c'est plus sécurisant de faire à deux, parfois. Ça aussi, c'est une grande richesse de savoir dire à un moment donné stop.
Puis c'est pas que t'es pas bon, quoi.
Non.
C'est juste que.
Ouais, il n'y a pas de compétition.
Ouais, mais ça, c'est pareil. On t'apprend pas ça à l'école des Ducs.
Non.
T'apprends pas.
Est-ce qu'on pourrait te l'apprendre?
Ah, bah oui. Ah, moi, il y a un moment donné, pendant. J'ai été. Vacataire, là, accompagner des étudiants là, sur leur dossier partenariat réseau, que j'ai accompagné les vendredis après-midi de 14h à 16h. Je veux dire que c'était pas.
Mauvais créneau.
C'était pas facile de les tenir. Et en fait, pareil, une opportunité, on te dit tiens, la personne que j'avais eue en référence, qui dit tu serais peut-être capable de faire ça, je sais pas, je suis pas sûre, je pense pas. Puis en fait, t'essayes et je me rappelle les étudiants qui étaient là, mais on parlait du quotidien, moi mon résident, je sais pas, il est plus dans la structure, j'ai plus de sujet de stage, enfin en tout cas j'ai plus de, tu vas trouver autre chose et puis parle-moi de ton quotidien, parle-moi de l'équipe. Puis en fait c'était ça, c'était un peu comme une espèce de débrief et puis de se dire ok, peut-être que c'est difficile pour toi ou écoutez-vous, faites-vous confiance. Échanger avec vos collègues, t'es pas sur la théorie.
La pure et dure, oui.
Bah non.
Il faut, à un moment donné.
Marche pas, c'est de l'être humain. Hein.
Donc tu passes 6 années dans cet asso. Qu'est-ce qui fait départ?
Qu'est-ce qui fait départ? C'est plus au niveau perso, cette fois. Je commençais d'être un petit peu fatiguée de travailler à l'urgence, à l'hébergement d'urgence, mais je m'en rendais pas vraiment compte parce que quand t'es pris dans le truc, tu te rends pas trop compte de ça. Donc t'en discutes avec tes amis ou tes amis te disent on en a un peu marre que tu parles du boulot tout le temps. Donc là tu dis d'accord, ok, il y a quelque chose qui vient remplir mon quotidien et ce serait peut-être bien que ce soit pas 80% le travail. Et je perds quelqu'un dans ma famille. C'est un petit peu compliqué à ce moment-là pendant 5-6 mois. Et une amie à moi travaille en Suisse, dans une garderie.
Okay.
Et déjà l'année d'avant, elle m'avait parlé que cette garderie cherchait des éducs, que ce serait peut-être pas mal que je puisse y aller, que je me rapprocherais de la Haute-Savoie. Enfin voilà. Et à ce moment-là, donc l'année d'avant, je me dis oui, pourquoi pas. Enfin, je suis pas du tout dans l'idée. Et finalement, ça se fait pas. Et donc là, vraiment, tout s'est un petit peu enchaîné. Donc je suis dans une période pas super cool là. Je vis un deuil. Et j'ai une entrevue à Genève pour cette garderie. J'hésite beaucoup parce que je me dis c'est une garderie. Est-ce que je vais être capable de tenir dans une garderie? Oui. À côté de ça, je me dis, ça serait bien qu'il y ait du changement, que je sorte un peu aussi de mon quotidien, et puis qu'il se passe autre chose. Et puis, pourquoi pas. Donc, je tente l'entrevue. Mm-hmm. Ça fonctionne. Et donc là, je demande un congé sabbatique là où je travaille, que j'obtiens. En même temps que mon CDI, ça s'est vraiment fait à peu de temps, à quelques mois près. Mm-hmm. Je venais d'obtenir mon CDI là où je travaillais et peut-être 5-6 mois plus tard, je demande si je peux avoir un congé. Je rentrais dans les clous au niveau des RH, ça fonctionnait. Donc on m'autorise le congé sabbatique de 11 mois. Et donc je pars travailler dans cette structure à Genève, qui est dans le quartier de l'ONU.
Okay.
Donc là, je passe de famille qui sollicite le 115 pour un hébergement à des enfants dont les parents travaillent dans les institutions de l'ONU. Je fais un petit grand écart.
C'est le virage.
Je fais un grand écart au niveau de mon salaire aussi, qui n'est vraiment pas négligeable. Je déménage, je m'installe en Haute-Savoie et je vais travailler à Genève.
Ok.
Donc là, pareil, je reviens en garderie. Donc pareil, je m'adapte, je tombe sur une équipe chouette. C'est complètement autre chose là, on est en Suisse. Donc c'est il y a quand même, ok, c'est francophone là, mais ça reste que c'est quand même pas, c'est pas les mêmes expressions, c'est pas le même fonctionnement.
Non.
C'est pas, enfin voilà, il faut, enfin comme toute personne qui s'installe, faut faire ses démarches à la banque. À la sécurité sociale, parce que bah, tu passes frontalier, il faut que tu puisses faire ton permis de travail, il faut que... Bah, voilà, il y a quand même pas mal de démarches que je n'ai jamais faites
bien sûr,
en étant française et en France. J'ai accompagné des familles à faire ça, hein, avec tout ce qui était les titres de séjour, les cartes de réfugiés, de résidents, j'en passe, tout découvrir. Enfin voilà, donc il y a tout ce travail qui se fait... En arrivant, ça va très vite, c'est très bien, ça m'occupe. Je touche pas terre parce que bah, voilà, je suis en train de m'installer dans une nouvelle ville et puis se faire une nouvelle job qui est très bien. Je suis à 4 jours semaine, royal. De toute façon, tout le monde dans la vie, si c'était possible, devrait travailler 4 jours semaine. je trouve que...
Un 80%, c'est la vie.
C'est merveilleux, vraiment. Mais ça se fait de plus en plus dans d'autres pays. Ça se fait aussi beaucoup. Et c'est ça. Et donc, je me retrouve à travailler dans cette garderie.
Et du coup, ouais, c'est différent. Mais tu t'y retrouves. Puis tu vis peut-être ça comme une expérience. Tu dis, j'ai
exact.
Un an, finalement.
C'est
comme une année un peu de césure. On appelait ça un peu comme
c'est
ça.
C'est exactement ça.
Tu avais quand même dans l'idée de revenir.
Ah oui, 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 parce que... Bah parce que là, mon quotidien, l'hébergement d'urgence, même si c'est épuisant, c'est vraiment... Enfin, j'aime ça.
Mmh.
Et là, je me retrouve... Donc, là, les premiers mois à la garderie, ça se passe bien. C'est,
ouais.
Voilà, c'est de la petite enfance, je reprends. En plus, c'est des élèves, enfin, c'est des enfants qui parlent pas forcément français, voire pas anglais. Puis bon, je suis pas non plus... Enfin, je me débrouille en anglais. Donc c'est des familles étrangères aussi. Mmh. C'est chouette, j'accueille des familles. Alors ok, c'est pas le même statut ni niveau
bien
social,
sûr.
Mais j'accueille des familles qui restent. Elles ont quitté leur pays pour venir travailler dans une organisation. Elles ont des enfants bas âge. Il faut aussi les accompagner et qu'elles puissent comprendre ça. Sauf que là, je suis dans une garderie, quoi.
C'est enrichissant. Tu rencontres du monde.
Ouais, c'est ça. C'est... Pareil, tu rencontres des personnes.
Finalement, t'es un peu comme les parents des enfants. Que t'accueilles, en fait. Tu découvres un pays, tu...
Oui.
Donc, tu te retrouves peut-être sur certains points avec eux.
Ouais. Il y a une maman, d'ailleurs, qui était arrivée en même temps que moi. Elle était de Montréal. Elle venait de passer 4 ou 5 ans à Washington. Et elle arrive à Genève avec son conjoint, les deux enfants. Et moi, je fais l'adaptation de la petite. Puis, en fait, on se retrouve sur des... on jase un peu des épiceries, de comment ça fonctionne. Puis voilà, il y a des trucs, on se dit, mais ça n'existe pas. Mais oui, j'ai pas ça. Enfin, on discute un peu. Et oui, effectivement, c'est aussi des familles qui sont là sur 2-3 années, suivant les missions, suivant ce qu'elles ont à faire à Genève. C'est tellement multiculturel, Genève. Que, puis les organisations mondiales sont là, quoi. Et c'est ça. Donc, je fais ça. J'arrive en août. 2015, j'arrive en Suisse. Décembre, je suis déjà en train de me projeter, en train de me dire, ok, bon, ça veut dire qu'en juillet 2016, j'ai mon année sabbatique, s'arrête. Et là, en fait, je lis un article sur... je ne sais plus sur quel site. Je lis un article qui dit que le PVT Canada, le permis vacances-travail, pour le Canada, vient de passer à 35 ans. En fait, jusque-là, il était de 18 à 30 ans.
Okay.
Et je viens d'apprendre qu'il est passé à 35 ans. Et je vais avoir 35 ans. Donc, je me dis, bon, OK.
C'était quelque chose que tu avais projeté, envisagé, peut-être déjà discuté.
J'en avais parlé, j'avais ça en tête, mais... sans trop le courage de le faire. J'avais des amis qui étaient partis avec un PVT au Canada notamment et en Australie. Mais je connaissais pas trop, je m'étais pas trop renseignée sur ça. J'étais vraiment dans mon quotidien. J'ai fini mes études, je travaille. Voilà, enfin, j'avais pas ça en tête, mais j'avais en tête quand même de me dire un jour j'aimerais ça bosser à l'étranger, ou en tout cas voilà, voir qu'est-ce qu'il est possible. Et puis en arrivant en Suisse, je m'étais dit bah voilà, c'est un petit peu ce que je fais, je vais pas trop loin de ma zone de confort.
C'était l'étranger sans être trop l'étranger, quoi.
C'est ça. Je vais pas trop loin non plus. Mais ouais, j'en avais parlé aussi un petit peu avant mon départ pour la Suisse. Mais voilà, sans grande conviction, quoi. Mmh. Et là, ça a fait 3-4 mois que je travaille à la garderie. Donc là, je connais bien le quotidien de la garderie. Donc là, ça commence de devenir un petit peu plus routinier pour moi. Et donc, je vois cet article qui dit que voilà, le PVT est passé à 35 ans. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. Autant que je m'inscrive, de toute façon. Voilà.
Est-ce que tu peux détailler comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là?
Ouais. Donc à ce moment-là, c'était une inscription sur le site de l'immigration du Canada. Donc en fait, tu te connectes, enfin tu crées un profil sur CIC Immigration. Et là, tu remplis toutes les données administratives d'identité. Tu remplis aussi tout un questionnaire sur ton parcours professionnel. Tu fournis un CV, lettre de motivation et de mémoire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Une pièce d'identité. Enfin, en tout cas, voilà, tu remplis quand même un questionnaire. Et tu attestes sur l'honneur que tu t'engages à être tiré au sort. Parce qu'en fait, cette année-là, c'était donc le PVT passait de 30 à 35 ans. Il passait de 1 an à 2 ans de visa. Et c'était une ronde d'invitation.
Une ronde d'invitation.
Ouais, des rondes d'invitation. Donc en fait, tu t'inscrivais et à chaque mois, ils tiraient au sort des personnes. Okay. Donc des rondes d'invitation. Ils tiraient au sort des personnes à chaque mois. Et je crois qu'on était, je ne sais plus, 70 000 inscrits et puis ils en prenaient 6 500, comme ça. Les autres années, c'était bien avant, genre 10 ans avant, t'envoyais ça par courrier, là, il n'y avait pas tant de personnes qui voulaient immigrer au Canada, en tout cas. Donc t'envoyais ça par courrier, après ça a été, fallait être connecté à telle heure, heure du Canada, enfin en tout cas suivant la province dans laquelle, enfin, fallait être connecté à telle heure, et puis là, fallait cliquer, mais ils ont eu un gros bug informatique sur les 2 années. Et donc après, ils ont fait les rondes d'invitation. Et à l'heure actuelle, c'est encore ça, c'est encore des rondes d'invitation. Et en fait, étant donné que tu peux aussi aller au Canada pour un stage pro, pour t'as différents visas et t'as différentes possibilités d'entrer au Canada, donc le PVT, c'est une ronde d'invitation. À partir du moment où t'es tiré au sort, tu as 20 jours pour dire si oui ou non tu souhaites y aller. Les 20 jours, c'est un petit peu important parce que ça te laisse... Vu qu'une fois que t'es tiré au sort et que t'as accepté les 20 jours, t'as 1 an pour partir. Donc, tu peux rajouter un petit 20 jours au bout de tes 1 an.
Ça marche.
Voilà, c'est toujours la petite astuce de dire « Ok, je clique pas tout de suite sur le courriel et puis j'attends un peu. » Donc, je m'inscris. Je m'inscris en me disant je verrai bien. Et puis, je me dis juste « Je vais aller au Québec si je suis tirée au sort, puis je travaillerai.
Ouais. »
Je me dis pas « j'y vais en mode je voyage pendant 2 ans dans le Canada. » Non, j'avais vraiment ce truc de me dire « Non, je vais y aller. » Et puis, genre... Genre, je déménage un petit peu. Je fais un petit déménagement au Québec.
Milliers de kilomètres.
Voilà, je fais un petit déménagement au Québec et je reste 2 ans. Et puis, les mois passent parce que c'est des rondes d'invitation. Donc t'es pas forcément tiré au sort de suite. Mmh, puis, 60 000, 70 000, je ne sais plus combien on est.
Ouais.
On est en mars 2016. Non, on est en avril 2016. Puis il faut que je me décide de savoir... OK, il y a le Canada, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je reste en Suisse ? Est-ce que je retourne travailler en France ? Je n'arrive pas du tout à me décider. Parce que la garderie, c'est moyen, mais il y a peut-être... Enfin, c'est moyen, je... Non, j'ai quand même aimé ça, mais je veux dire, je vois bien que...
un peu moins stimulant.
Ouais. Bah, en fait, j'avais les enfants qui présentaient des troubles, je les suivais, quoi.
Ok.
J'avais un petit côté spécialisé, on va dire, un peu plus. À défi, je les prenais plus en accompagnement. Et ben voilà, là, il faut se décider. Puis ben, j'ai aucune... Ben, je sais pas quoi faire, quoi. Donc... Et je rentre chez moi et je reçois le courriel de l'immigration. Puis sur le coup, je me dis, ouais, c'est la mise à jour. J'ai tout le temps des mises à jour, là, c'est la mise à jour. Et en fait, j'ouvre le courriel et là, c'est le Canada. Enfin, c'est l'immigration qui dit, OK, vous êtes tiré au sort pour partir. Et là, je clique. Je me dis, merde, j'ai pas du tout attendu les 20 jours. J'ai pas du tout fait ce que je m'étais dit que je ferais. Je clique et bah, j'ai aucune hésitation, quoi. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où je me dis, OK, j'y vais. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et là, j'en ai aucune, quoi. Je me dis, OK, j'y vais. J'ai peur, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il est tard, en plus, je ne peux appeler personne. Mes amis sont toutes avec leurs enfants qui viennent de coucher. Je ne peux pas. Voilà. Donc, je reste avec cette nouvelle, cette
arme
chez moi. Et le lendemain, enfin voilà, ça prend plus de sens, quoi. Et je me dis, OK, donc.
Donc là, je vais partir vivre au Canada.
Bah, ouais. Enfin, voilà. Bah, puis bah, là, il faut s'organiser. Donc là, c'est un an. Donc je prends de l'avance. J'envoie quand même mes diplômes au MIFI, au ministère de l'immigration, de la famille. Je n'ai plus le dernier I. C'est pas grave. Okay. J'envoie pour mon étude comparative, parce qu'en fait, t'as pas d'équivalence, c'est des études comparatives. Donc j'envoie ça en amont, et puis bah là, je démissionne de 2 CDI.
Un Suisse, un franc.
Ça, c'est dur.
Quel courage.
Ça, c'est... Ouais. Je sais pas si c'est du courage. Enfin, moi, à ce moment-là, je me vois pas du tout courageuse, quoi. Je me dis... En fait, j'y vais.
Moi, je trouve que c'est hyper courageux de sortir d'une sécurité, tu vois, ouais. De rythme de vie, de collègues, d'amis, de contacts, financières également, ouais. Parce que t'as quand même 2 CDI, donc tu sais qu'à un moment donné, t'as quand même...
Ah oui, non, mais je suis assurée de payer mon loyer, j'ai un quotidien, quoi.
Et là, tu te dis, est-ce que... Quand tu projettes de partir t'installer au Canada, travailler, tout à l'heure tu dis, je me dis je vais partir travailler, est-ce que tu projettes d'être travailleur social, de chercher que sur travailleur social ou d'ouvrir?
Non, je me dis, je veux aller voir comment ça se passe, le travail social, okay. Au Québec.
D'accord.
C'est vraiment dans
c'est ton goal.
Ouais. Je me dis, puis je me dis, c'est ce que je sais faire.
Bien sûr, oui.
Est-ce que je suis capable de le faire là-bas? Est-ce que... Enfin, cette élite professionnelle est-elle capable de travailler sur place? Alors, par contre, j'ai aucune idée de où je vais travailler.
Ouais, t'as pas fait des recherches pendant un an avant, non. Sur comment ça fonctionne, où est-ce que t'as envie d'aller bosser, tout ça? Non, t'es plutôt en mode on verra.
Bah, en fait, j'ai regardé là où tu as des offres d'emploi.
Ouais.
Donc, j'ai regardé sur. Québec Santé, parce que ça regroupe le social et la santé. Mm-hmm. Donc j'ai regardé sur le site, il y a un autre site qui s'appelle arrondissement.com. Là, c'est beaucoup de les emplois dans le communautaire.
Okay.
Mais voilà, en gros, je connais les deux là. Mm. J'ai envoyé ma demande pour mon évaluation comparative, parce qu'en fait, je veux arriver en ayant, j'ai mon visa, j'ai mon permis de travail ouvert. Ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que je ne suis pas contrainte d'être avec un employeur en particulier. Donc, j'arrive vraiment avec visa, permis de travail ouvert, mes diplômes, et puis 2 valises. Parce que j'ai préparé tout le déménagement à l'avance, quoi. Enfin, en tout cas, tu prépares là pendant un an. Mais c'est vrai que non, pendant cette année-là, j'ai regardé plus ce qui était les institutions financières, un peu les quartiers de Montréal, où est-ce que j'aimerais ça m'installer. Plus un peu sur la vie, qu'est-ce que je peux faire au Québec, en entier dans la province du Québec. J'ai même pas regardé plus que ça les expressions, ou en tout cas qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y fait. Non, j'ai passé surtout du temps à préparer le départ. Parce que je me disais, je pars 2 ans.
Ouais.
Donc, là, OK, mes affaires, mes meubles, donc j'en vends, j'en laisse à droite, à gauche chez les amis. Je mets des boîtes sur le grenier d'un ami aussi, en disant, j'ai fait un peu un tri. Et puis, de toute façon, dans 2 ans, je reviens. Donc,
je récupère.
Voilà, je récupère, affaires. Je serai pas sans rien, quoi. J'aurai mes petites tasses préférées, mes trucs. Et puis, je pars en mai 2017.
OK.
Et j'arrive, il neige.
C'est pas en prévu. Mai 2017.
C'est pas prévu. Enfin, il tombe la neige fondue, mais il tombe la neige quand même.
C'est quoi tes premiers ressentis quand t'arrives ?
Mes premiers ressentis, pareil, ça va assez vite parce que j'ai une liste de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut que j'aille faire mon NAS, mon numéro d'assurance sociale, qui va me permettre de travailler. Il faut que je trouve un numéro de cellulaire et puis il faut que j'ouvre un compte en banque.
Okay.
Et tout ça, ça s'est fait dans la même après-midi.
Wow.
Donc là, déjà, je me dis OK.
La performance, quoi.
Ben non, et puis c'est. Ouais.
C'est obligé, oui. C'est
facile. Mm. Enfin, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai dû passer l'immigration. Mm. C'était compliqué à ce moment-là. Il y a eu 3 ou 4 heures d'attente à l'immigration. Ils se sont plantés sur mon visa. Enfin, bref, mais ça, c'est rentré dans l'ordre par la suite. Et puis, j'arrive dans un quartier, je connais pas, je sais pas où on fait l'épicerie, je sais pas. Comme toute personne qui arrive, j'ai de la chance parce que c'est francophone, quoi. Et puis, j'ai décidé de venir, puis je suis pas en train de quitter un pays en guerre, c'est moi, je suis arrivée.
C'est un projet de vie.
C'est une expérience de 2 ans.
Voilà, une expérience de vie, c'est pas contraint. Hein,
c'est ça, j'ai mis de l'argent de côté parce que je travaillais en Suisse et que heureusement ça m'a permis de le faire. Donc voilà, j'arrive, je tâtonne et puis j'arrive, c'est la période des festivals, donc je m'installe à Montréal en me disant que j'ai jamais vécu dans une grande ville, donc c'est l'occasion. Non, je connais personne, donc j'ai une personne que j'ai rencontrée dans l'avion, avec qui on garde contact quand même, et qui est hébergée dans une espèce d'auberge où finalement je rencontre d'autres gens et puis on garde contact quand on vient puis on est encore amis maintenant.
Ok.
Mais ouais, après c'est je suis assez, mais parce que j'arrive à 35 ans aussi, donc. J'arrive pas à 18 ans, 20 ans, ou je sais pas. Enfin, j'imagine que j'ai une maturité que j'avais pas avant. Mais tout se fait rapidement. Je me dis, OK, si je veux pouvoir travailler, c'est comme ça, là. Il faut que j'ai un numéro d'assurance sociale. Donc ça va très vite. Tu vas à Service Canada et puis voilà, tu fais la file pour avoir ton numéro d'assurance sociale. On te le donne. C'est un numéro provisoire que tu as au début. Puis après, il faut bien qu'on puisse me contacter. Et puis, il faut que tu aies un numéro de cellulaire québécois. Sinon, ça ne marche pas, là, si tu n'as pas...
Tu ne peux pas être joignable.
Donc, pareil, tu vas pleurer chez Koudo, chez TELUS ou je ne sais pas lequel. Parce que les forfaits de téléphone sont extrêmement chers au Québec. Et puis, j'ouvre un compte en banque. Parce que c'est les 3 choses qu'il me faut.
Mais pour pouvoir t'installer.
Et après...
Tu avais repéré un... quartier, un logement, un truc.
En bonne française qui arrive immigrante au Canada et à Montréal, je check assez rapidement les apparts dans le quartier du Plateau, qui est le Plateau, c'est le quartier français à Montréal, enfin qui s'étend un peu maintenant et qui va un peu plus sur le Mile End, un peu dans Villeray, un peu Jean Talon, enfin ça s'étend un peu. Mais donc je cherche un appart et pareil, ça va très vite. J'en trouve un en 15 jours. J'en trouve un premier. Alors, je suis plutôt connue pour déménager régulièrement. À Dijon, j'ai fait pas mal d'appartes. À Montréal, j'en suis à 4, je pense.
Ok. Voilà. C'est ça, te permet de découvrir la ville, les ambiances.
C'est ça. Et puis, de toute façon, c'est culturel. On déménage le 1er juillet, donc il faut rester... Mais non, je trouve assez rapidement un appart. Hein. Vraiment, en 15 jours, on ne te demande pas de cautionnaire. C'est assez... Ça va vite. Ce premier appart, c'est pas génial. Donc, j'en retrouve un second quelques mois après. Et puis, ça se fait. Je postule à des emplois. Je découvre la ville en même temps. J'arrive. C'est la période des francopholies, les festivals, les nuits d'Afrique. Tout à Montréal. Des concerts partout. L'ambiance dans les parcs. L'ambiance de Montréal.
Quand il commence à faire un peu plus chaud.
Montréal est belle. Elle est belle dès qu'il fait beau. Enfin, elle est belle l'hiver aussi. Il faut savoir que moi, j'aime... Enfin, j'aime pas la neige, donc je pars Mes amis se demandent un peu... Il y a de la neige
là-bas. Il fait très froid longtemps.
C'est ça, il fait froid longtemps. Mais je sais pas. C'était comme
élan.
Ça. Ouais, c'est un élan. Ça vient après, après plusieurs années. Je sais pas, ça se fait comme ça. J'ai pas trop réfléchi. Et puis, je trouve... je postule quand même. Enfin, je me laisse un 2-3 mois.
OK.
Je vois que je trouve pas de boulot tout de suite, puis que ce serait bien que je travaille. Donc là, je trouve un job-in dans les burritos. Donc je fais des burritos pendant un mois.
Et là, tu te dis quoi ? Je suis venue faire des burritos à Montréal.
Là, étrangement, moi qui suis quand même, beaucoup me questionner.
Ouais, tu l'as dit.
Ça va.
Ouais.
Ouais, ça va. Étrangement, non mais étrangement, ça va. C'est génial. Je suis pas inquiète en fait. Je me dis, je vais trouver quelque chose. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais là, il faut que tu acceptes de réduire ton salaire, il faut que tu acceptes de... Ouais, donc je me dis, ok, je vais faire... Enfin, voilà, je travaille dans un truc où j'apprends le pliage des burritos, quoi. J'ai jamais fait ça de ma vie. Les petits jobs que j'ai fait, moi, c'était en lien avec le BAFA ou... J'ai jamais fait ça, quoi. Donc, c'est pas grave. Donc, j'ai mon petit...
Un petit lâcher-prise, du coup. À ce moment-là où tu te dis, c'est comme ça.
Puis je me dis, ce serait quand même bien que je ne fasse pas ça tout le temps. Puis j'aimerais ça quand même trouver dans ma branche. Mm. Et puis ça se fait. Un mois après, j'avais fait quand même quelques entrevues. Alors, il faut savoir que les entrevues au Québec, toutes les entrevues que tu passes, tu ressors en te disant, c'est génial, ça s'est super bien passé.
Okay.
Il y a un truc très... respectueux, on va dire, ou en tout cas, on va pas te dire que tu corresponds pas à la job tout de suite. Okay. Donc, s'il y a un bel échange, les gens sont contents de t'avoir reçu. Moi, je sortais, je me disais, hey, c'est cool. Enfin, franchement, ça s'est bien passé, là. J'ai fait une belle entrevue. Puis, en fait, non, on te rappelle pas. donc, tu rappelles, toi, quand même, en disant, j'avais l'impression que c'était bien passé. Oui, mais non. Enfin, c'était très intéressant de vous avoir. On a vraiment aimé ça, vous rencontrer, mais on a pris quelqu'un d'autre. D'accord. Okay. Que moi, je me rappelle les entrevues en France que j'ai fait. Enfin, tu te rends compte assez rapidement si corresponds
oui
ou pas au profil. Mmh. Donc là, non. Et puis, je postule, c'était un centre communautaire. Parce que c'est assez facile. C'est assez facile. Il y a beaucoup d'emplois dans les centres communautaires. C'est moins bien payé. Mais il y a beaucoup de turnover, en fait. Donc, il y a quand même souvent des emplois. Et là, c'est un centre communautaire qui, en fait, l'emploi, c'est intervenante communautaire scolaire.
OK.
Et c'est pour être mis à disposition d'une école primaire et d'une école secondaire auprès des élèves des classes d'accueil.
D'accord.
Donc, en fait, en gros, ma job, c'est d'être dans ces deux écoles. Donc, je partage mon temps entre ces deux écoles dans la semaine et d'accueillir donc, les nouvelles familles, la plupart allophones.
OK.
Qui viennent parce que leur enfant vient à l'école. Donc, c'est des familles réfugiées, en demande d'asile, ou qui arrivent avec une résidence permanente, mais de d'autres pays, du Pakistan, du Maghreb, de l'Inde,
d'accord,
n'importe où. Et qui donc, viennent s'installer au Québec pour diverses raisons, hein, que ce soit en étant passés illégalement en demande d'asile, en traversant la frontière des États-Unis jusqu'au Canada, ou en réfugiés, mais pareil, arrivés sur des... Il y a eu beaucoup l'accueil des réfugiés syriens ou le Canada. Donc, différents profils de famille. Et là, donc, je suis le lien entre l'école, la famille et l'élève qui arrive à l'école. Okay. Donc, je ne connais rien à l'école au Québec.
Je vais vous dire comment ça va se passer.
C'est
ça
un peu
va
ça.
Bien se passer.
Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est, je n'ai pas fait mes études ici, moi. Je ne sais pas... Je ne sais pas comment ça se passe, l'école au Québec.
Tu découvres en même temps que tu.
Exact.
Coup.
Ça fait 4 mois que je suis là.
C'est chouette.
Ouais. Enfin, mais ça m'a aidée.
Bah, bien sûr.
Ouais. Ça m'a aidée dans le lien, dans la relation avec les familles. Après, ça reste des enfants. Ils sont allophones. OK. On se débrouille avec tous les petits mots de politesse que je peux connaître, que ce soit dans différentes langues. Et puis voilà, d'expliquer aux familles, on va le faire ensemble. Quoi. L'hiver, je ne sais pas comment ça se passe l'hiver. L'école est fermée quand il neige, je ne pense pas, parce que sinon il n'y aurait jamais d'école. Donc non, mais et j'apprends. Et pareil, personne bienveillante, deux petites espèces de marraines là, qui naviguent autour, les directrices de l'école qui m'accueillent super bien. Vraiment super accueil. Je suis dans un quartier où c'est une population très diversifiée. C'est pas que des Québécois. J'ai vraiment des familles qui arrivent de partout. Ou sur une ou deux générations au Québec. Voilà, avec la culture québécoise. Ou des familles qui viennent d'arriver depuis un mois, deux mois. Et puis voilà, on accueille, on explique comment va se passer... le système scolaire au Québec, je me renseigne, j'étudie quand même pas mal le truc pour pas raconter trop de niaiseries, et puis ça se fait, puis là, faut trouver les habits de neige, faut expliquer comment ça va se passer, les autobus...
Tu retrouves un peu un public que t'affectionnes.
Ben oui,
en plus.
Ouais. Donc c'est génial.
Et toi d'avoir vécu le fait d'immigrer vers un pays, alors bien sûr dans un autre contexte, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai choisi, j'avais envie d'être là, mais d'être l'étrangère, est-ce que traverser ça, ça permet... Toi, est-ce que ça t'enrichit de quelque chose du coup auprès de l'accompagnement que tu fais de ces publics ?
Oui, et puis même moi, dans mon quotidien en arrivant, on a quand même les Français et les Françaises la réputation au Québec de savoir tout, de tout faire. On est affectueusement appelés les maudits Français. Mais c'est plutôt affectueux, sauf pour ceux qui vraiment en ont marre de l'immigration française au Québec.
Ouais.
Mais je fais très attention, moi, dans ma façon d'être. J'ai pas envie de blesser. Je suis l'étrangère qui arrive. Ouais. C'est pas parce que c'est un pays francophone que ça y est, c'est complètement différent. Et ça, c'est des choses que j'avais ressenties aussi avec des familles que j'ai accueillies en France, qui disaient « mais non, on va faire attention, on fait pas de vagues, on veut pas de problèmes, comment il faut faire pour s'adapter ?» Donc je retrouve, alors vraiment à la petite dimension de privilégiée qui arrive à Montréal, c'est vraiment pas comparable, mais il y a ce petit truc, et pour les familles aussi qui viennent d'arriver, enfin je veux dire, moi, j'avais des familles du Pakistan, on se donnait des petites infos, des petits tips pour l'hiver, quoi. OK, j'ai trouvé tel truc, ça fonctionne bien dans vos bottes de neige, vous pouvez mettre ça, j'ai trouvé ça, vous pouvez trouver ça à la pharmacie. Mais oui, il y a quand même ce côté de... Quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis expatriée.
Ouais.
Je ne me disais pas immigrante. Okay. Quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis expat parce que j'arrive deux ans et puis je repars, quoi. Donc, je veux avoir une expérience professionnelle, je veux que ça se passe bien. Et donc je suis un petit peu à tâtons.
Est-ce qu'on peut dire, là, du coup, aux personnes qui nous écoutent, combien de temps ça fait que tu es au Québec ?
Ça fait 5 ans.
Finalement, elle n'est pas repartie au bout de 2 ans.
Non.
On va savoir un petit peu pourquoi.
Non, je suis pas repartie.
Mais du coup, comment tu te sens aujourd'hui ? Parce que tu disais, pendant 2 ans, je me sentais expatriée. Là, au bout de 5 ans, du coup, avec les démarches administratives qu'on évoquera tout à l'heure, comment tu te sens maintenant ? Quel statut tu te donnes, en tout cas ?
Alors, je suis immigrante française au Canada. Je suis plus expatriée, parce que le fait de passer aussi par les démarches administratives pour pouvoir rester davantage sur le territoire canadien... fait que je me sens immigrante. C'est long, les démarches administratives. Je ne sais pas si je
reparle. On va en parler maintenant.
Voilà. C'est assez fastidieux. C'est assez long. Je le savais avant de partir, mais parce que je m'étais renseignée, mais je ne me suis jamais dit je vais faire tout le parcours de la résidence permanente. C'est parce que c'est là
c'est
où...
C'est comme ça que ça s'appelle.
Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est long, ça demande beaucoup de papiers à remplir. En plus, ça dépend des provinces. Dans la province du Québec, il faut d'abord demander son certificat de sélection du Québec, son CSQ. Donc ça, on le demande au niveau de la province du Québec. Ça met du temps plus ou moins du temps à être reçu. Et une fois qu'on a ce document, on applique pour la résidence permanente. Donc là, c'est pareil, c'est énormément de documents à remplir. Faut savoir que pour le CSQ, mais je pense que ça a changé depuis, donc je voudrais pas raconter de bêtises. Moi, à l'époque, il fallait que je justifie de 52 semaines de travail à 30 heures semaine
pour l'avoir,
pour demander mon CSQ. Je crois que maintenant, c'est passé à 2 ans. Okay. Il y a des sites, il y a pvtiste.net, pvtiste, Sur Facebook, je crois, ils sont très actifs. Enfin, il y a énormément de sites qui expliquent. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats en immigration aussi qui accompagnent les personnes dans les démarches. Mais en tout cas, ouais, ils ont une sélection assez, assez complexe pour la province de Québec. Dans les autres provinces, ce n'est pas le cas. Dans les autres provinces, tu appliques à la résidence permanente. Je crois au bout de 2 ans sur le territoire, tu peux appliquer à la résidence. Et ça va plus vite aussi.
Ça va plus vite. Mmh. OK. OK. Si on revient un petit peu sur le travail social, tu fais ce job-là, du coup, pendant combien de temps ?
Pendant 4 ans.
OK.
Pendant 4 ans, sachant qu'entre-temps... J'applique, mon PVT arrive à expiration. Donc là, je demande à mon employeur s'il est OK pour me faire un permis de travail fermé. Donc là, il est OK pour me faire le permis de travail fermé. Donc là, à ce moment-là, je suis coincée, entre guillemets. Je reste sur le territoire parce que j'ai mon visa de travail avec cet employeur.
Lié à l'employeur. S'il y a une rupture de contrat, tu n'as plus de permis de travail.
J'ai plus de permis de travail, mais si c'est une rupture de contrat, je peux quand même rester 3 mois sur le territoire.
D'accord.
J'ai 3 mois pour retrouver un autre emploi. Et si c'est moi qui quitte pour un autre emploi, il faut que l'autre emploi me fasse le permis de travail.
Ok.
À ce moment-là, à l'époque, tu fais ce qu'on appelle le tour du poteau, c'est-à-dire que tu sors du pays, donc clairement tu vas aux États-Unis,
ouais.
Tu sors du pays, tu re-rentres après au Canada avec tes papiers qui disent voilà, j'ai tel emploi. C'est pas leur job aux douaniers de faire ça, ils sont un peu tannés, je pense, mais en tout cas, tu pouvais le faire. Je suis pas sûre que tu puisses encore le faire parce que la Covid est passée par là, puis on n'avait plus le droit de sortir du territoire, puis maintenant tout se fait un peu en ligne. L'immigration a refait ça. Puis donc après, tu revenais avec un nouveau permis de travail lié à ton employeur. Et donc à ce moment-là, j'applique pour la résidence permanente. Et là, je sais que je vais en avoir pour. Je sais pas en fait. Je me dis que j'en ai pour 2 ans, 3 ans d'attente. C'est super long. On est des milliers à demander la résidence permanente. Le Canada étudie vraiment le dossier. Si tu t'es planté dans ta demande de résidence permanente, il te renvoie le truc au complet. Des fois, on te redemande une photo. Tu en as déjà envoyé 3. Il y a un moment donné, je me demandais ce qu'ils faisaient de mes photos à l'immigration.
Je me disais,
qu'est-ce qu'ils en font ? Ils en ont 6. Sérieux, je vois pas ce qu'ils font avec mes photos. Et en fait, la pandémie arrive. Le permis que j'ai ne m'empêche pas de sortir du territoire. Tu peux toujours sortir du Canada. C'est y rentrer qui est compliqué. Et les documents que j'ai ne me permettent pas de revenir. Si je sors du territoire, ça ne me permet pas de re-rentrer. Donc là, c'est pas super parce que je me dis, OK, j'aime pas ça, moi, l'idée de me dire que je peux pas.
T'es affilié, accroché.
Ouais, j'aime pas trop là, l'idée de me dire, comment ça, je ne peux pas voyager comme je veux, aller peut-être voir ma famille en France, mes amis.
Bien sûr.
Et puis la résidence permanente arrive en août 2021. Et là, c'est soulagement complet parce que là, je sais que j'ai une carte qui est valable pour 5 ans, que je peux renouveler. Qui me permet d'accéder à des emplois autres que auxquels j'avais pas pu postuler jusqu'à présent parce que j'avais pas de carte de résidence permanente. Alors autant quand je suis arrivée au Québec, il y avait des emplois où je m'étais dit, je vais postuler en itinérance, en violence conjugale, enfin dans les domaines de la violence conjugale et tout ça, parce que j'ai l'expérience. Oui, mais sauf que j'avais pas l'expérience du terrain, des structures, de comment ça fonctionne. Là, quand j'étais en France, c'était merveilleux. Enfin, je veux dire, avec les années d'expérience, le partenariat qu'on avait développé, on connaissait les collègues travailleurs et travailleuses sociaux. Enfin, je veux dire, c'était facile, c'était évident. Enfin, j'avais acquis cette expérience. Là, je ne l'avais pas. Et puis, le milieu d'itinérance était complètement différent de celui que j'avais connu. Il n'y a pas de 115, il n'y a pas des CAO, on n'est pas sûr de l'étude de projet avec les personnes qu'on accompagne. On peut pas les accueillir en structure. Les itinérants vont en refuge, ils font la file pour pouvoir y entrer. C'est un accompagnement vraiment différent que j'avais pas du tout. Et c'est pour ça que je m'étais retrouvée là à travailler en école parce que puis je connaissais pas, donc l'école c'était cool aussi. Et en fait, en ayant cette expérience de 4 ans en tant qu'intervenante communautaire scolaire, je postule à un emploi dans une commission scolaire à l'intérieur d'une école primaire.
Okay.
Il faut savoir que dans les écoles primaires et secondaires au Québec, il y a des éducateurs et éducatrices spécialisés,
okay,
qui sont appelés techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, mais il y en a dans les écoles.
C'est une grosse... Enfin, c'est différent.
Ah bah oui, parce que tu interviens soit dans... Alors moi, c'est tout nouveau. Hein. Il y a des tas de choses que je ne connais pas encore. Là, ça fait... Avant, quand j'étais dans l'école en tant qu'intervenante, j'étais vraiment sur le volet accompagnement, les élèves en classe d'accueil. Voilà, je connais, quoi. C'est familles réfugiées, demandeuses d'asile, OK, la réalité de leur quotidien, tout ça. Là, j'arrive et là, je suis dans une école avec des enseignants et des enseignantes.
Tu fais partie de l'équipe, vraiment?
Ah bah oui, je suis dans les murs, je suis dans l'école, je suis appelée pour aller en classe, pour intervenir en classe, soit sur des élèves qui cumulent des troubles 10, tous les 10 que tu veux, qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'être ramenés au niveau de l'attention parce qu'ils n'écoutent pas à l'école ou que c'est compliqué de rester attentif. Je découvre tout ce qui va être troubles TDAH, TSA scolarisé, et puis tous les ravages, je dirais, qu'a eu les 2 ans de pandémie où les élèves n'ont pas été scolarisés. Et je le vois surtout sur les maternelles et premières années, là, où c'est compliqué d'être en groupe, d'avoir un savoir-être en classe. Et puis voilà, puis je travaille avec des enseignants et des enseignantes. Je gère des conflits de soccer. Je n'aime pas ça. Mais bon, je gère des...
C'est conflits. Un support.
Ouais,
c'est comme un autre.
C'est ça, je gère des peines de cœur. J'accompagne des élèves. J'ai un bureau. Je suis avec... là, j'avais une collègue cette année. Je suis en lien avec les parents. Je pose beaucoup de cadres. Ça n'a pas été évident au début. Ouais. Parce que je n'avais pas ce rôle-là avec les élèves que j'avais avant. Et même dans mes anciens emplois, je posais du cadre, mais c'était un cadre un peu imposé.
Ouais, bien sûr.
Là, je pose du cadre sur des comportements, mais du cadre bienveillant. Enfin, ça a été aussi une adaptation.
Un apprentissage,
ouais.
Toi également.
Et c'est ça, et là, j'en suis là.
Est-ce que tu as remarqué des choses qui t'ont un peu percuté dans des différences en France par rapport au Québec? De mon point de vue de française, on nous a toujours dit que le Québec, c'était un peu l'Eldorado du travail social, qu'ils faisaient beaucoup de choses en groupe, que c'était génial, que... Enfin, vraiment, moi, j'en ai une image très positive. Est-ce que tu, avec du recul, du coup, presque 5 ans, t'as cette même image-là d'un Eldorado, de façon de faire innovante, différente, plus collective, ou est-ce que pas du tout, enfin...
Alors, je vais la voir, mais de mon expérience, c'est-à-dire de mon œil, là, qui a été avec les écoles.
Ouais.
Et oui, je vois une différence, c'est sûr, déjà, dans l'accompagnement des élèves dans l'école. C'est-à-dire qu'il y a il y a des éducateurs, éducatrices spécialisées, orthopédagogues, psychologues, orthophonistes. Il y a les écoles... Beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent à l'intérieur de l'école. Il y a beaucoup de prévention. On va avoir des agents socio-communautaires, ça va être l'équivalent de la police de proximité, qui vont venir faire beaucoup de prévention sur le harcèlement scolaire, sur le cyberharcèlement, sur les responsabilités qu'on a à partir de 12 ans. Parce qu'à 12 ans, on peut être arrêté au Québec. Sur l'usage des drogues, sur tout ce qui va être civisme. Il y a beaucoup, en fait, l'extérieur vient quand même beaucoup dans l'école.
Ok.
Donc ça, moi, Après, j'ai pas travaillé en école en France, mais un peu des échos que j'ai, c'est pas vraiment le cas.
Effectivement, en tout cas, rien que sur... tu parlais d'orthopédagogue, de psychologue, etc. À l'intérieur, rencontrer des enfants sans que c'est plus regroupé à l'extérieur.
Ouais.
Enfin, j'ai pas l'impression.
Alors, il y a aussi, ça dépend aussi, tout ça, c'est pareil, c'est politique, c'est le financement. Donc, ça dépend aussi, dans quel cadre est ton école. Mais il y a aussi beaucoup de listes d'attente, comme partout et comme en France, dans les. ça correspondrait au CMP, ouais, ouais, c'est ça. Beaucoup dans c'est les CLSC, nous, beaucoup de listes d'attente pour être pris en charge, pour voir un médecin, pour. Enfin voilà. Donc ça reste
similaire.
Ça reste similaire, sachant que je pense que c'est même plus long au Québec. Okay. C'est l'acquisition d'un médecin de famille, oublie ça là, ça met ça met 4-5 ans avant d'en avoir un.
Okay.
C'est très compliqué. Il faut que tu prennes des rendez-vous à la clinique sans rendez-vous. Enfin voilà, donc il faut déjà savoir. Enfin, c'est assez compliqué. Ça se fait. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Okay. Et moi, je veux dire, ça faisait déjà partie de ma job d'expliquer aux familles qui arrivaient, parce que moi-même, je me suis retrouvée à devoir trouver un médecin. On me dit qu'il faut prendre rendez-vous à la clinique sans rendez-vous. Ça marche pas dans la même phrase déjà. Donc de pouvoir expliquer comment ça fonctionne.
Bien sûr.
Mais ouais, dans mon œil de l'école, en tout cas, de là où je suis, puis c'est vraiment pas représentatif de tout le travail social. Je trouve que ouais, il y a quand même des moyens qui sont mis. Après, c'est comme partout, quoi. C'est aussi c'est aussi des êtres humains qui travaillent dans les écoles, donc ça dépend aussi comment tout ça se met en place. En ce qui concerne la santé mentale, il y a quand même beaucoup les centres communautaires prennent beaucoup le relais sur les institutions publiques, enfin, en tout cas qui relèvent de l'État. Donc il y a du soutien, mais pas tant que ça. Il y a eu une grosse scission, mais c'est pareil, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 20-30 ans au Québec où le milieu de la psychiatrie a été un peu délaissé.
Okay.
Et on se retrouve avec beaucoup de personnes en rue qui ont des gros, gros, gros problèmes de santé mentale et qui ne sont pas pris en charge. Donc ça, c'est... Enfin voilà, dans l'accompagnement, je pense qu'il y avait... Moi, j'avais des collègues qui étaient dans les systèmes de maraude, par exemple, là où je travaillais, où tu vas à la rencontre des gens, et puis tu peux, à la limite, accompagner la personne aussi, peut-être sur du soin, peut-être... Là, si, de ce que j'ai compris, si la personne ne veut pas de soin, elle n'a pas de soin.
Ok.
Puis il faudra, je ne sais pas, quoi, je sais pas comment faire, et je ne connaissais pas les tenants et aboutissants, comment tout ça se gère, donc j'ai pas trop de... Pas trop d'infos par rapport à...
Ça fait que 5 ans.
Ouais, c'est ça.
En même temps.
C'est ça.
Avec une pandémie dedans.
La pandémie, ouais, a fait vraiment pas mal de mal aussi.
Et puis, c'est pas ton milieu, du coup, d'exercice.
C'est pas là où je suis allée.
Eh oui.
Je dis peut-être que, je sais pas où j'en serai l'année prochaine, mais...
Est-ce que tu as rencontré des travailleurs sociaux là-bas, français aussi, qui sont venus immigrer.
Oui, ouais. Ouais. Parce que tu forcément, quand tu es immigrante française, tu rencontres aussi des immigrants français. C'est plus facile. Mais oui, j'en ai rencontré qui travaillent dans différentes structures.
Okay.
Que ce soit centre communautaire type, je ne sais pas, ce serait CADA, je dirais. Je ne sais pas si ça existe encore, les CADA. Mais voilà.
Ouais.
Donc, ce serait plus sur de l'accompagnement. Des personnes qui travaillent, pareil, en CLSC, sur... peut-être plus de l'accompagnement de personnes qui viennent pour des rendez-vous. Il y a un truc qui manque. Il n'y a pas d'AS de secteur.
Ah.
Ouais.
Il n'y a pas de travailleurs sociaux qui font de la polyvalence, qui vont un peu t'aiguiller.
C'est ça.
À
tu sais que tu peux prendre rendez-vous, là, tu y vas parce que tu as un problème de n'importe quel ordre. Mm. Tu vas, tu rencontres quelqu'un. C'est assez spécifique et ça marche beaucoup aux références.
Il faut déjà cibler ton problème, quoi.
Ouais. Tu peux pas... Ouais, c'est ça. Non, les travailleurs sociaux qui sont dans les CLSC sont souvent référés parce que l'enfant par l'école ou la famille parce que... Ou alors la famille va s'y présenter mais parce qu'il y a un problème précis et puis que si elle veut un autre accompagnement, ça sera une autre personne qui va l'accompagner.
D'accord.
Je m'étais fait la réflexion. Il faudrait peut-être que je creuse davantage, mais non, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de polyvalence de secteur.
Non.
Ok, c'est intéressant.
Il n'y en a pas, et puis c'est souvent lié de toute façon à la santé.
Mm.
Après, il y a la DPJ. Moi, j'ai des amis qui travaillent à la DPJ, c'est
la justice, du coup.
Voilà, la protection de la jeunesse.
Mm.
Mais comme partout, il y a un manque. Là, il y a un manque cruel de travailleurs sociaux.
Mm.
Et il faut faire attention. Travailleurs sociaux, c'est pas nos travailleurs sociaux en France. Les travailleurs sociaux, ils sont régis à un ordre professionnel Et donc, ils sortent d'un bac en travail social.
Ok.
Je ne suis pas travailleuse sociale au Québec.
Puisque...
Je suis technicienne en éducation spécialisée.
C'est pas une équivalence qui est complète.
Non. Il n'y a que pour les assistants et assistantes de services sociaux, avec des accords France-Québec, qui, diplômés en France, arrivent au Québec et peuvent prétendre au titre de travailleur social.
Elles sont fortes, Zaïs.
Travailleurs ou travailleuses sociales. Ouais, c'est un peu frustrant.
Teux et fort, pardon.
Oui,
pardon, monsieur, pour les collègues.
Mais il y a ça aussi à prendre en compte. Quand
bien sûr.
Ouais. Les ordres professionnels, c'est vraiment régi par des ordres professionnels. Ouais. Au début, je cherchais du travail, je disais, bah oui, je travaille social, parce que je me disais, je ne vais pas expliquer à chaque fois, je fais du CSP, puis je fais tout jeunes enfants, puis j'ai travaillé dans tel milieu, donc en fait, j'ai telle compétence. Et en fait, rapidement, je me suis dit, oula, je vais prendre le terme en fonction de là où je veux aller.
Ouais.
Et non, travailleur et travailleuse sociale, c'est... régi par un ordre professionnel.
Et est-ce qu'il faudrait que tu refasses une formation pour avoir le...
Oui. Il n'y a pas d'équivalent. En fait, ça vaut pas le coup. Soit je fais une étude de mes compétences terrain, donc des 6 dernières années passées en France, où là, je pourrais prétendre à... j'ai des compétences d'AS.
Donc genre une VAE.
Ouais, mais qui me prendrait genre 4 ans.
Ok.
Avec énormément... Une VAE plus, là.
Un big dossier.
Ou alors, je reprends des études à l'université.
Ouais.
Et là, je vais sur un bac en travail social que tu peux faire en 3 ans, j'imagine. Mais ça veut dire que tu fais que ça. Et les études universitaires coûtent extrêmement cher.
OK.
Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, en tout cas, qui travaillent et qui passent 1 ou 2 crédits par an. Parce qu'en fait, c'est pareil, je maîtrise pas ça, mais je sais qu'il te faut tant de crédits pour avoir un certificat et tant de certificats pour avoir un bac.
Ok. Donc le tu bac, peux le faire en plusieurs années, quoi.
Ah oui, moi j'ai des amis qui sont encore en études et qui continuent, qui font un certificat aux 2 ans.
Ok.
Parce que c'est long. Après, tout est adapté, hein. T'as des cours du soir, t'as des cours le samedi, le dimanche à l'université, tu peux avoir des bourses, mais ça coûte cher.
Ouais, faut mesurer en tout cas dans toi ta situation. T'as déjà 2 diplômes en France, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Mais
je sais pas.
Faut mesurer.
Ouais, je me dis, je suis pas à l'abri de reprendre des études à un moment, si ça se trouve, j'en sais rien. Pour le moment, non. Là, c'est pas. Là, je vais reprendre, en école. Et puis, je verrai bien où me mène cette année. C'est vrai que c'est pas. Il y a du travail.
Il y a du travail.
Je suis pas inquiète. Inquiète pour ça. Il y a de l'emploi. S'il y a un truc que j'ai compris, c'est que je sais m'adapter. C'est pas facile aussi, peut-être, de se le dire, quoi. De se dire, je suis capable de faire ça. Mais je pense que. Toutes mes marraines, on va dire, me l'ont assez répété que j'étais capable. Donc,
je crois, oui, que tu es capable de travailler dans 3 pays différents, j'ai pas tout compté tes services, mais un nombre de services quand même assez conséquent. Je crois que tu sais t'adapter.
Ouais, je pense. Je pense que ça, je vais arrêter de douter là-dessus. Je vais me dire que c'est bon.
Alors, la question est-ce qu'un retour est envisagé en France un jour?
C'est drôle. Ça fait un mois que je suis en France, tout le monde me pose
la
question.
C'est vrai.
Ouais, mais
je suis sûre.
Les gens me demandent, mais tu t'installes, tu restes là-bas, j'en sais rien.
Bah, tu t'installes, t'es installée?
Pour le moment, j'y suis. J'y suis, j'ai ma résidence permanente, je n'ai pas de soucis du coup d'avoir un visa de travail, je vais pouvoir y travailler. Ça m'ouvre 2-3 projets. Je me dis, bon voilà, il y a peut-être ça que je pourrais mettre en place, il y a peut-être ça qui n'existe pas. Enfin, tout à l'heure, tu parlais de l'Eldorado du Québec. Il y a un truc qui est sûr au Québec, c'est que tu n'arrives pas avec un diplôme, tu arrives avec des compétences.
Ouais.
Et ça, mine de rien, c'est hyper agréable parce qu'en fait, même si tu n'as pas le diplôme, alors, je ne vais pas non plus. J'imagine que si t'es médecin, on s'entend, on attend que t'aies le diplôme.
Oui, évidemment.
Mais, je veux dire, dans notre branche du social, on va te faire confiance, on va te donner ta chance. Et ils sont assez ouverts à des choses un peu nouvelles, ça c'est vrai. C'est-à-dire que t'arrives avec un projet en disant « mais là, j'aimerais bien, je pense qu'on pourrait faire ça dans l'école ou dans la job, ou dans l'accompagnement, ou dans un centre communautaire. Ou... » Ok, présente-moi ton projet, dis-moi ce qu'il est possible de faire et si ça marche, ben on essaye.
Okay.
On y va, on tente. Et puis, moi, j'avais aucune expérience en école. Enfin, je veux dire, mis à part des enfants, m'occuper d'enfants, mais je veux dire, j'ai aucune expérience dans les troubles TDAH, TSA, les troubles du comportement, de l'opposition, de la provocation. Alors, je les vis au quotidien avec les enfants.
Du coup.
Mais je n'ai pas de formation initiale dedans. J'imagine que, je crois qu'en formation de technicienne en éducation spécialisée, tu vois ça dans les cours. Tu fais tes cours au cégep, là, mais tu le vois. Tu as des cours où tu vois les différentes approches. Moi, je n'ai pas ces compétences, mais je les apprends. Et puis je pose des questions. Et puis, je fais des erreurs. Il y a des trucs, des fois, je dis à ma collègue, je suis vraiment pas convaincue de ton approche, mais on va tenter, puis j'essaye, puis des fois ça fonctionne, je suis surprise, je me dis ah oui, ok, je pensais pas.
Mais tu découvres tout un milieu du coup qui n'était pas forcément le tien, parce que même en crèche ou en halte garderie, t'as vu des enfants, des jeunes enfants, mais t'as pas vu forcément des enfants qui avaient déjà ce genre de profil.
Non, et puis j'ai survolé, peut-être à la pédopsie, à la limite, mais...
Non, en stage.
J'étais en stage, coup, c'est ça. Pas... J'étais en stage préoccupée par mon mémoire. Et... mais donc oui, ça c'est quelque chose qui est vrai. Alors Eldorado, mais c'est plus on te laisse ta chance.
Ok.
Et puis vraiment, enfin, moi j'ai eu des collègues qui n'avaient rien à voir avec le travail social et qui avaient des compétences et qui font ça très bien.
Et ça match.
Ouais. Et puis demain, voilà, ça se trouve, je vais décider d'aller, j'en sais rien moi. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas d'idée, là. Mais si j'ai des compétences professionnelles et que ça rentre dans ce que l'emploi auquel je prétends attend, ben...
En tout cas, tu te sens la possibilité de t'autoriser à postuler sur des choses où t'aurais pas forcément postulé, je sais pas si on peut comparer en France ou pas, mais tu te sens que l'opportunité est là,
ouais.
En tout cas.
En France, j'avais plus l'impression de me dire, ok, j'ai pas le diplôme, j'ai pas le papier, ouais. Qui dit que...
J'ai pas la permission.
Ouais, au Québec, on le ressent quand même
moins.
Bah, si, là, on m'a demandé mes diplômes, mes compétences.
Enfin,
je veux dire, c'est normal. Mais par exemple, j'avais pas d'expérience en école.
Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est vraiment passionnant, je trouve. Cet échange-là est vraiment passionnant. Donc, merci vraiment beaucoup à toi pour ton témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe sur les quatre dernières questions de la fin ?
Non, j'ai rien à ajouter. Faut tenter.
Ouais.
Faut tenter, faut y aller. En fait, c'est fou, hein, mais dans les rencontres, faut s'écouter, dans l'emploi, se faire confiance. Et puis... Enfin, je sais pas, je voudrais encourager surtout les gens qui hésitent à faire ce métier, à le faire, quoi.
C'est un message hyper positif, je trouve. Et c'est cool de finir sur ça. Si je demande souvent à mes invités s'ils devaient faire autre chose complètement différent du travail social, est-ce que tu as déjà envisagé de faire autre chose ?
Je crois pas. Je crois pas que j'ai déjà envisagé à faire autre chose, mis à part gagner au loto. Ce serait l'autre chose. Mais non, je crois que ça reste. Je resterai quand même avec du contact humain, avec des gens, avec. Je sais pas. Même si je devais, à un moment donné, avec des amis, on parlait, de se dire ok, on pourrait faire un coworking. Où on accueillerait des travailleurs indépendants, puis on mettrait une garderie sur place, comme ça les mères pourraient, les pères pourraient travailler, puis avoir la garderie. Enfin voilà, j'ai des idées à la minute, quoi, mais je me suis jamais dit je change complètement de voie, mais on ne sait pas. Hein. Jamais dire jamais.
C'est ça, exactement.
Donc, mais je crois que ça resterait quand même avec...
Avec l'humain.
Avec l'humain, ah bah oui.
Si tu avais la fameuse baguette magique, qu'est-ce que t'en ferais si je te la donne dans les mains là?
Si j'avais la baguette magique, ça va être... cette question, elle n'est pas évidente.
Non.
La baguette magique, c'est drôle parce que moi, je posais la même question aux personnes que j'accompagnais en leur disant, si t'avais ta baguette magique, là, tu ferais quoi? Je pense qu'avec le recul maintenant, et en ayant un peu plus conscience que tout ne se joue pas avec les humains sur le terrain, et que ça se décide au-dessus au niveau des politiques, et je ferai en sorte d'avoir assez de financement dans toutes les structures qui en ont besoin, quoi. Enfin, en tout cas de tenter aussi des projets, projets nouveaux, de voir comment on peut faire pour que y aura toujours des éduques mais comment on peut faire en sorte que ce soit plus facile d'accompagner des personnes qui en ont besoin. Souvent, moi, j'utilisais l'image de je suis les petites roulettes du vélo, et à un moment donné, la personne, elle a plus besoin des roulettes, quoi. Elle sait faire du vélo toute seule. Et j'aimerais ça qu'on me donne un peu plus. Ouais, c'est ça, de roulettes, ouais. C'est exact.
Moi, j'utilise la béquille. Je suis la béquille à un moment donné. Appuie-toi et une fois. Que ça ira mieux, t'auras plus besoin de béquilles pour marcher.
C'est ça.
Ouais, ok. La question de l'invitée précédente, c'est quelle est votre plus belle réussite ou fierté professionnelle?
C'est pas facile non plus, merci à l'invitée précédente. Fierté, c'est dur ça.
Ouais, ou réussite. Qu'est-ce qui t'a rendu fière? Une réussite qui t'a rendu fière?
Bah, spontanément là, parce que y en a eu quand même pas mal, hein, notamment quand j'étais à l'hébergement. C'est des histoires de réunification familiale où t'es présent et puis c'est émouvant. Après, je me rappellerai d'une résidente qui avait un sacré passif addictif, à la rue, grosse problématique familiale, vraiment, c'était assez compliqué. Et en réunion SIAO, donc elle allait sortir d'incarcération, et en réunion SIAO, quelle est la structure la plus adaptée pour elle, quoi? Puis tout le monde était un peu frileux, quoi. Enfin, je veux dire, parce que comment on peut faire pour l'aider? En plus, je crois qu'elle n'avait pas énormément de liens avec le département à l'époque. Enfin, ça reste encore un peu flou, mais je me rappelle avoir été assez virulente pendant cette réunion en disant mais là, on peut pas se dire qu'elle va y arriver, et puis qu'on peut lui donner sa chance, et puis qu'on l'accompagne, et on avait dit ok, on va la prendre à l'urgence. Et ça devait être une collègue à moi qui devait l'accueillir, puis finalement ça s'est pas fait, c'est moi qui l'ai accueillie. Et j'étais vraiment pas à l'aise parce que elle avait peut-être 5 ou 6 ans de moins que moi. Sortant d'incarcération, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte. Enfin, il y avait tout un truc.
Ça a l'air compliqué.
C'était très très lourd, très compliqué. Elle avait pas envie d'être là, elle avait un caractère, mais. Vraiment de M. C'était hyper compliqué de communiquer avec elle. Elle quittait le bureau, elle claquait la porte. Elle voulait pas non plus à cette époque. C'était compliqué pour elle de se dire qu'elle était enceinte à nouveau. C'était pas prévu. Puis elle voulait absolument un garçon. Et moi, j'avais tellement peur parce que là, elle revenait de l'échographie. Et puis, je me disais, pourvu que ce soit un garçon, parce que c'est tellement compliqué. Et pas de bol. Non. Et c'est une fille. Et là, elle est en panique. Elle en veut pas. Et puis, elle peut pas. Enfin, bref. Ça reste compliqué. Et j'ai un Playmobil sur mon bureau Et je ne sais plus quoi faire, elle s'énerve, je me dis, on va la perdre, elle va repartir dans la nature, elle va se remettre en difficulté, elle va... Enfin, elle a vraiment à l'accumuler, mais depuis son enfance. Enfin, je me dis, c'est... Non, il y a moyen qu'elle y arrive quand même à un moment donné. Et elle s'énerve sur ce bébé, enfin, en tout cas, qu'elle a. Et je suis avec mon Playmobil, elle me dit, puis de toute façon, je ne sais même pas à quoi il ressemble, je ne sais même pas à quoi il... Elle s'énerve, et là, je lui sors mon Playmobil, et je lui dis, je crois qu'il est gros comme ça. Je lui montre, et là, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et elle le prend, et elle me dit, t'es sûre de toi? Je dis, ouais, je crois. Enfin, on peut vérifier, on va regarder, on va... Et en fait, il y a eu comme un truc qui s'est mis en place. J'ai beaucoup utilisé l'humour avec elle aussi. Et même quand elle menaçait de partir et qu'elle disait, mais de toute façon, je ne reviendrai pas. Je disais, écoute, à chaque fois, tu le dis. Enfin, j'ai été en dehors des clous. Enfin, en dehors des clous.
Est-ce que tu as été en dehors des codes?
Ouais. Bah oui.
Mais du coup, qui dicte les codes?
C'est plus... Ce qu'on a appris, ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui fonctionne.
T'as débordé un petit peu quoi, de ton dessin, mais du coup, pour permettre au dessin de s'épanouir. Ouais. Okay.
Et ça, il y a eu un truc. Il y a eu un truc et je l'ai accompagné donc, pendant tout ce temps. Ensuite, il y a eu une évaluation avec un projet ficelé qu'elle avait décidé. C'était pas facile qu'elle le tienne, mais en tout cas, et je savais jamais si elle allait revenir. La grossesse a continué. Elle a été accueillie dans une autre structure de là où je travaillais, prise en charge avec encore du lien. Elle venait encore me voir pour s'énerver dans mon bureau. Elle a eu sa fille. Elle m'a appelée le jour de l'accouchement, limite pour venir. J'ai dit que de toute façon, j'étais pas joignable, mais j'ai eu le droit aux vidéos, des premières vidéos de son bébé. Il y a eu, elle s'est énervée plein de fois. Elle m'a laissé la petite dans mon bureau. Oui. Je me voyais repartir avec l'enfant. Je me disais comment je vais faire pour l'accompagner. Et en fait. Puis il y a eu tout un truc, quoi. Elle a repris une formation, elle a été super bien accompagnée, elle a vachement accroché avec la chef de service à l'époque de ce service aussi. Il y a eu tout un truc qui s'est mis en place et j'ai été j'ai quitté. J'ai quitté, je pense, 2 mois après où elle est allée en appartement. Avec encore un suivi, mais son appartement à son nom, avec sa fille, tout ça. Avec des trucs pas mal réglés, même au niveau santé. Grosse problématique au niveau de la dentition aussi, tout ça, ça avait pu être réglé. Okay. Elle a repris un peu d'empowerment, plus de confiance en elle, plus d'apaisement. Je me souviens avoir... Il y a eu 2-3 situations comme ça quand j'ai quitté l'hébergement d'urgence, que j'avais bouclé, des situations que j'avais pu accompagner jusqu'au bout. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir ouverte à la réunion d'équipe ce jour-là.
Elle va y arriver, est-ce qu'on peut y croire?
Ouais.
Ça, c'est une situation qui fait partie de tes fiertés, en tout cas, où tu as senti que tu as pu aller du début à la fin.
Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup échangé avec mes collègues, parce que... Mais en écoutant, je sais pas si, enfin, tu dois l'avoir aussi, mais cette petite voix qui te dit, ok, là, je le tente, je suis vraiment pas sûre de mon coup. Si je lui dis ça, ça passe ou ça casse, est-ce qu'elle va l'entendre? Puis t'arrives à le savoir une fois que t'as créé une espèce de relation. Alors, la relation de confiance, ça prend du temps, mais quand t'as créé quelque chose, de dire, ok, je vais pouvoir y aller ou je vais pouvoir utiliser l'humour jusque-là. Ça va fonctionner avec cette personne ou d'autres où tu te dis pas du tout. Il y avait des personnes où j'étais très protocolaire, très...
Bien sûr.
Parce que c'est ce qu'elles attendaient, puis c'est ce dont peut-être elles avaient besoin aussi à ce moment-là. Mais elle, j'ai un peu tout essayé. Puis je lui disais, mais je sais plus comment faire avec vous. Je sais plus.
Mais si c'est des personnes qui ont eu, comme tu disais déjà, un parcours chaotique, ça veut dire que des éduques, ils en ont vu, revu, que des méthodes d'accompagnement, ils en ont épuisé, et que finalement, toi, t'arrives à un moment décisif de sa vie, une sortie d'incarcération, une grossesse, où là, il faut innover.
Et puis de lui dire, à elle, écoute, dis-moi.
Ouais, voilà.
Enfin, dites-moi. Je tutoie beaucoup plus au Québec
qu'en France. En tout cas, c'est chouette. Merci pour ce partage de situation.
Avec plaisir.
Eh bien, je te laisse poser ta question.
Ah, je ne l'ai pas. Je réfléchis.
Au prochain invité.
Au prochain invité, ouais. Je trouvais ça pas mal. Je vais piquer l'idée à quelqu'un. J'avais trouvé l'anecdote. Ça avait été sympa, ça aussi. Mais je sais pas. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est une vocation que d'être, tu vois, travailleur social, travailleuse sociale. Est-ce que c'est une vocation ? Souvent, quand on parle avec des gens autour de toi, tu sais, les gens te disent « Ah, mais je serais incapable de faire ce que tu fais » ou « Mais en même temps, c'est une vocation ?» ou pas,
voilà, est-ce qu'on est plus capable que d'autres ?
Ouais.
Ouais.
Bonne chance pour la réponse.
Merci beaucoup, Stélie.
Merci
pour cet échange et cet épisode qui est très riche et j'espère pourra ouvrir des idées, des projets, enfin en tout cas plein d'opportunités pour des personnes qui auraient envie de voguer vers d'autres horizons. Merci beaucoup. Merci à toi. What you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.